C'est aussi des adresses, des escapades familiales ou encore des balades urbaines à travers le monde. Le Figaro Voyage, l'art de voyager, actuellement en kiosque.
Pourquoi cette année je verse ma taxe d'apprentissage aux écoles du groupe InSecu, leader français de l'enseignement supérieur privé? Pour contribuer à la formation de mes futurs stagiaires et cadres. Aujourd'hui, plus d'intermédiaires. Je verse ma taxe directement à l'école de mon choix.
InSecu, c'est INSEC Grande École, ECE, EBS Paris, ESCE, Sup Carrière, Sup de Pub, Sup de Création, HEIP, CEDS, en tous 16 écoles.
À nos côtés, investissez dans l'avenir.
Entreprise, pour verser votre taxe d'apprentissage 2021, rendez-vous sur insec.agires.com.
Les viandes de bœuf Label Rouge, par ceux qui en parlent le mieux.
Alors écoutez, c'est pas compliqué. Si vous voulez du plaisir dans votre assiette avec une bonne viande de bœuf pleine de goût, bah, il faut des races de terroir, celles qui broutent de l'herbe des prés la majeure partie de l'année et qui mangent du foin de la ferme le reste du temps. Et là, croyez-moi, le plaisir, il est là.
Mais vous êtes éleveuse ?
Ah non, pas du tout, moi je suis institutrice. Mais bah, je m'intéresse à ce que je mets dans mon assiette, pas vous ?
Les viandes de bœuf Label Rouge, le plaisir de manger mieux.
Europe Soir, le 18-20.
On est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant le journal de Christophe Lamarre. Juste après, on va ouvrir ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des Idées. Et ce soir, ça va être non seulement passionnant, mais sans doute fort, très fort. Que deviennent les sportifs de haut niveau quand ils ne sont plus sous le feu des projecteurs? Certains ont réussi leur reconversion, d'autres ont tout perdu. Comment passer du podium à la vraie vie, à la vie d'après? Comment passer des grands titres de l'actualité à une vie d'anonyme? Nous serons avec Yannick Agnel, nous serons avec Christine Aron et l'immense Bruno Bellone. Rappelez-vous, un champion de France 82, champion de France d'Europe 84, il était à côté de Platini sur la photo. Ils seront notamment avec nous ce soir, on ouvre le débat dans 20 minutes. Juste avant, ce sera la carte blanche du jour. Ce soir, Alexandre Malafaille du think tank Sinopia sur l'écriture inclusive. Mais d'abord, toute l'info avec vous, Christophe Lamarre. Rebonsoir, Christophe.
Rebonsoir.
Bon début de soirée sur Europe 1. Il est 19h.
Si et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Quelques jours de répit, pas de tour de vis dans l'immédiat. Jean Castex va entamer une concertation avec les élus des départements concernés.
20 départements sont placés sous surveillance. La concerne notamment tous les départements de l'Île-de-France. La circulation du virus et de ses variants est jugée préoccupante. Anne Le Gall, dès le début de ce journal.
Les escrocs profitent aussi de la crise sanitaire. À Lyon, les policiers ont démantelé un vaste réseau d'escroqueries au chômage partiel. Le préjudice dépasse les 2 millions d'euros.
L'exploitation des réacteurs nucléaires prolongée de 10 ans, décision de l'autorité. Autorité de sûreté du nucléaire qui fait passer leur durée de vie de 40 à 50 ans.
Nouveau sujet de tension entre Paris et Téhéran. Un deuxième Français est détenu en Iran. Les conditions de son arrestation restent floues. L'œil de Didier François, notre spécialiste des questions internationales dans ce journal. Et puis le football, 16e de finale retour de l'Europa League. Lille sur le terrain de l'Ajax en ce moment.
La météo tout de suite, Anissa. Anissa,
oui, avec... Le passage d'une perturbation demain qui va nous apporter pas mal de nuages et quelques petites pluies, notamment sur le centre et le nord-est. Les températures vont légèrement baisser aussi, je vous dis tout à la fin du journal.
A tout à l'heure, Anissa.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Jean Castex a donc décidé de se laisser un peu de temps avant d'enclencher le mode restriction supplémentaire. 20 départements sont donc placés sous haute surveillance, dont tous les départements de l'Île-de-France. Le Premier ministre veut tout faire pour éviter le reconfinement, mais s'il doit en passer par là, eh bien il n'hésitera pas.
Ces départements sont au nombre de 20. Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loire. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'envisager des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader, nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Voilà, le Premier ministre, lors de sa conférence de presse tout à l'heure, on notait déjà un changement de ton dans la communication du gouvernement. Anne Le Gall, qu'est-ce qui justifie cette mise en garde du Premier ministre ?
Eh bien, Jean Castex l'a d'emblée annoncé. Le devoir de vérité m'oblige à vous dire ce soir que la situation sanitaire se dégrade. Il l'a rappelé, les 30 000 cas positifs en 24 heures, du jamais vu depuis novembre. Il se passe quelque chose, a indiqué le Premier ministre, en raison des variants plus contagieux. Le virus gagne du terrain presque partout en Europe. Tout cela dans un contexte où la pression hospitalière est déjà très forte. C'est sur ce constat que 20 départements se retrouvent donc en surveillance renforcée et pourront éventuellement faire l'objet de restrictions comme Nice ou Dunkerque à partir du 6 mars. Un point donc sera fait la semaine prochaine si la situation continue de se dégrader.
Mais Anne, le Premier ministre a aussi parler de signes d'espoir.
Voilà, il y a l'arrivée de nouveaux traitements à l'hôpital avec des anticorps monoclonaux. Il y a les tests salivaires dans les écoles qui permettront de tester 6 fois plus d'enfants qu'aujourd'hui. Et puis, il y a l'espoir aussi de la vaccination qui se poursuit fin février. 3 millions de Français auront été vaccinés. Les dernières données d'efficacité et de tolérance des 3 vaccins disponibles en France sont rassurantes. D'ici fin mars, ce sont les 2/3 des plus de 75 ans qui auront reçu leur injection. Le vaccin sera proposé à tous les plus de 50 ans d'ici mi-mai et déjà l'âge moyen des patients faisant des formes graves a diminué de 6 ou 7 ans en moyenne.
Eh bien, restons sur cette note d'espoir. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination semble porter ses fruits. Pour la première fois depuis janvier, le gouvernement abaisse son niveau d'alerte d'un cran. Il est désormais à 4 sur une échelle de 5.
La crise sanitaire qui profite aussi aux escrocs, notamment à ceux qui cherchent à profiter des aides que l'État verse aux entreprises en difficulté, Christophe.
Oui, dans la région de Lyon, la police vient de démanteler un vaste réseau d'escroqueries au chômage partiel. Le préjudice est très important, plus de 2 millions d'euros, Gladys Lafitte.
Oui, et heureusement, les enquêteurs ont réussi à saisir, à récupérer plus de la moitié de cette somme et le million restant est pour le moment évaporé. Alors ce réseau a été découvert à partir d'une première société repérée en août dernier par Tracfin, c'est la cellule de renseignement financier, une société qui disait employer 49 salariés à 4000 euros par mois et pour qui elle demandait les aides au chômage partiel, sauf qu'en fait, eh bien, il n'y avait aucun salarié. Et c'était le même mode opératoire pour 7 autres entreprises découvertes par la Division de la lutte contre la criminalité financière de la police judiciaire de Lyon, dirigée par Judicaël Ruby.
Ces sommes étaient décaissées ensuite soit vers d'autres sociétés en France ou à l'étranger. Ces virements étaient justifiés par des faux contrats ou des fausses factures, mais évidemment les fonds aussi étaient décaissés en partie vers les comptes personnels des dirigeants qui n'étaient autres que des escrocs.
Et des escrocs déjà connus hein, pour d'autres escroqueries, mais qui ont profité des failles du système économique pour s'engouffrer dans la brèche et développer de nouvelles arnaques. 3 des têtes de ce réseau ont été interpellées.
Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. L'enquête sur la rixe qui avait provoqué la mort d'un jeune garçon de 14 ans à Boussy-Saint-Antoine, 7 adolescents ont été présentés à un juge d'instruction. L'un d'eux, âgé de 15 ans, est soupçonné d'avoir donné le coup de couteau mortel, a été placé en détention provisoire.
Gérard Depardieu réagit après sa mise en son examen pardon, pour viol par une jeune comédienne. L'acteur a donné une interview à un quotidien italien. « Je suis innocent et je n'ai rien à craindre », dit-il.
10 ans de plus, l'autorité de sûreté nucléaire prolonge la durée de vie des centrales de 10 ans.
Et cela concerne les réacteurs mis en service dans les années 80. Concrètement, eh bien leur durée de vie va passer de 40 à 50 ans, mais il y a des conditions, Élise Dangean.
Et oui, pour obtenir un tel sursis, EDF va devoir réaliser une série de tests afin d'assurer la sûreté de ses 32 réacteurs répartis sur 8 centrales nucléaires. Des tests qui vont être menés pendant ce qu'on appelle les visites décennales. Elles sont déjà en cours dans certaines centrales. C'est le cas par exemple à celle du Bugey, près de Lyon. S'en suivront des travaux qui s'étaleront sur plusieurs années pour améliorer les installations avec plusieurs objectifs. D'abord, réduire les conséquences d'éventuels accidents, notamment les plus graves avec fusion du cœur du réacteur, mais aussi renforcer la protection face à des agressions type séisme, inondation ou encore canicule, des phénomènes peu pris en compte il y a encore 40 ans.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Le Quai d'Orsay a donc confirmé l'information. Un touriste français de 35 ans est bien emprisonné en Iran depuis mai 2020.
Et on en parle avec avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
L'ambassade de France à Téhéran a été en mesure de réaliser plusieurs visites consulaires. Elle est parvenue, Didier, à lui trouver un avocat qui dénonce une détention illégale.
Eh bien oui, 9 mois déjà que ce jeune Français croupit dans une geôle iranienne sans la moindre raison valable. Benjamin, c'est son prénom. À 35 ans, il avait décidé de visiter en minibus le désert du Khorasan. Vous savez, cette mythique satrapie de l'époque des conquêtes d'Alexandre le Grand. Or, c'était certes un très beau projet touristique. Malheureusement, cette région isolée est également un bastion conservateur où les ayatollahs règnent sans partage et où les gardiens de la révolution islamique ont tout le pouvoir. Or, justement, au moment de son voyage, un agent des passes d'Aran était arrêté en Belgique pour avoir planifié un attentat à la bombe contre des opposants iraniens résidant en France. Il vient d'ailleurs d'être condamné à 20 ans de prison par la Belgique. Et bien évidemment, le régime iranien veut obtenir sa libération à n'importe quel prix. Et c'est la raison pour laquelle ils ont interpellé ce jeune Français au prétexte qu'il avait une caméra GoPro là, dans son minivan, la belle affaire pour un touriste. En vérité, ils avaient besoin d'une monnaie d'échange, d'un otage, pour obtenir la libération de leur agent en prison. C'est une forme de marchandage sordide, mais de tradition bien établie par le régime des Mollahs.
D'autres Français ont été soumis au même traitement ?
Absolument. Le chercheur Roland Marchal, arrêté à Téhéran en juin 2019, puis relâché en mars 2020 contre la libération d'un ingénieur iranien emprisonné en France et qui était accusé par les États-Unis de s'être procuré des composantes électroniques sensibles pour alimenter le programme nucléaire des ayatollahs. Sa compagne, d'ailleurs, l'anthropologue Farila Adelak, est condamnée à 5 ans de prison. Elle est toujours assignée à résidence surveillée à Téhéran et soumise au port d'un bracelet électronique, menacée d'une inculpation pour atteinte à la sécurité de l'État. Et là encore, évidemment, les diplomates estiment que son sort pourrait également dépendre de celui de l'espion des passes d'Aran condamné en Belgique. Ce qui en dit long quand même, pour ceux qui l'auraient oublié, sur la nature du régime islamiste iranien.
L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales dans le journal de 19h. En Arménie, la situation reste très instable. Les pro- et anti-gouvernements continuent de manifester dans la capitale, Erevan.
Oui, à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais les cortèges comptent à chaque fois plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le Premier ministre dénonce la tentative de coup d'État des militaires et les appelle à la raison. Les généraux, eux, ne lui pardonnent pas le limogeage d'un haut gradé de l'état-major. Le pays est sous tension continue depuis la défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh.
Allez, le sport à présent, le football. On va prendre des nouvelles de Lille qui affronte l'Ajax d'Amsterdam ce soir.
Là, il y a quand même la qualification pour les 8e de finale de l'Europa League en jeu. Le match a commencé depuis une quinzaine de minutes. Où en sommes-nous, Cyril de la Morinerie ?
Eh bien, on en est que l'Ajax Amsterdam vient de marquer un but à l'instant par Klaatsen qui a marqué sur un coup de pied arrêté. On va voir si ce but est validé. Et Mike Maignan qui vient d'écoper d'un carton jaune, c'est bien dommage parce que les Lillois avaient très très bien démarrer cette partie en se procurant la première occasion avec une frappe de Tcheka qui avait été arrêtée sur sa ligne par un défenseur d'Amsterdam et donc sur ce coup franc qui arrive sur un joueur hollandais, la réplique qui n'a pas tardé et l'Ajax Amsterdam, le mythique club de l'Ajax qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions, eh bien, vient de marquer le premier but de cette partie. Ça va être extrêmement difficile pour Lille, qui s'était incliné au match aller 2-1, qui n'avait pas montré grand-chose, et qui va devoir maintenant marquer 3 buts pour se qualifier, alors que l'équipe de Lille n'a jamais gagné un seul match face à l'ancien club de Johan Cruyff, dont la statue trône à l'entrée du stade. On rappelle qu'il n'y a aucun spectateur dans cette enceinte, alors que lorsqu'il y a du monde, je peux vous dire, d'expérience, que c'est de la folie furieuse avec des drapeaux qui sont agités. Là, il n'y a rien. Donc, c'est en terrain neutre, si je puis dire. Et Lille a encore ses chances, même si ça sera extrêmement difficile pour le leader du championnat de France de Ligue 1.
Cyril de la Morinerie, toujours aussi enthousiaste. Et c'est vrai qu'un stade vide, c'est quand même triste. Mais quand il y a Cyril de la Morinerie au micro, eh bien, c'est toujours joyeux. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Tiens, Thierry Henry, lui, quitte le banc de Montréal. Il a décidé de mettre un terme à ses fonctions d'entraîneur pour raison familiale. C'est ce qu'indique son club, sans en dire plus. Et puis, il n'y aura pas de France-Écosse en rugby. Le comité destination reporte la rencontre après la découverte d'un nouveau cas de Covid chez les Bleus. Et selon les informations de Simon Rubin du service des sports d'Europe 1, c'est un joueur de l'équipe de France qui aurait été déclaré positif.
C'est complet. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci beaucoup, Christophe. Alors, la météo, Anissa Haddadi, un temps plus mitigé pour ce vendredi. Hein.
Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on a connu une très belle journée mercredi. On pensait déjà être au printemps, mais le printemps, il avait un mois d'avance. Donc, il va falloir encore être patient avec une légère perturbation demain qui va toucher le centre, la région parisienne, le nord-est, les frontières belges, la Champagne. Là, vous aurez un ciel plus gris avec des averses tout au long de la journée. Alors ce ne sont pas de fortes pluies hein, qu'on attend, ce sont de petites pluies qui vont durer comme ça pendant toute la journée. Ailleurs, le soleil brille quand même dans une atmosphère rafraîchie comme sur le nord-ouest, hein, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, là c'est du soleil, mais les températures vont baisser 1 à 5 degrés demain matin sur la moitié nord, 10 à 14 demain après-midi, nous aurons 10 degrés à Dunkerque, 13 à Paris et Rennes. Dans le sud, après la dissipation des entrées maritimes, là le soleil va s'imposer, il fera beau dans le sud demain, sauf sur le Pays Basque, c'est un petit peu plus couvert. Les températures, elles sont douces là aussi, hein. 15 degrés à Clermont-Ferrand, 16 à Bastia, 17 à Marseille et à Lyon, 18 pour Montpellier et 20 degrés la maximale prévue pour Nîmes.
Merci beaucoup Alissa.
Europe 1. Écoutez le monde changer.